René Crevel. Mais si la mort n'était qu'un mot, orgueil ou paresse, les deux peut-être, l'intelligence à l'état de veille prétend domestiquer les énigmes. Ainsi, du temps et de l'espace, nos jours ont fait des animaux dociles. Quant aux notions de vie ou de mort, qui ne se laissent qu'apprivoiser pour fuir leur angoisse essentielle, angoisse qui d'ailleurs me semble seule capable donner l'indiscutable sensation d'être, chaque minute essaye quelque nouveau suicide. À qui parle de la mort ou du geste qui peut donner le paradoxe est facile, mais comment ne point noter que déjà fut un suicide la vie de tel ou tel? Barrès destructeur ne se déduit que le jour où, arbitrairement, il construit. Au contraire, le Romain de la décadence, s'ouvrant les veines, me semble si naturel que j'ose à peine parler de suicide, car le sénateur romain, s'ouvrant les veines, ne renonçait pas à lui-même, mais, au contraire, avait un dernier geste, logique, pour s'affirmer. J'entends que les hommes intelligents, trop intelligents, c'est l'esprit critique, assassin des possibilités qui nous tue, usent et ont raison d'user contre eux-mêmes de la corde, du poison, du revolver, etc. Tout comme les nerveux prennent du dal cuiba le soir, avant de se coucher pour mieux dormir. Hors sommeil, nous nous disons qu'il est l'image de la mort, réserve aux esprits inquiets les douloureuses surprises des rêves. Je ne puis croire que les intelligences supérieures aux préoccupations terrestres et qui s'en voulurent à jamais délivrer, aient brisé par le geste appelé suicide la parabole d'une ascension. Au contraire, ce dont on constate qu'ils s'étourdissent ou se tuent de travail me paraissent des faibles, car le travail et l'activité humaine sont des stupéfiants qui n'ont même point pour séduire telle ou telle petite note pittoresque, bien discutable quant à sa qualité, d'ailleurs, mais qu'il est impossible d'accorder au point à d'autres stupéfiants. La plupart des hommes qui marchent et respirent méritent guère dans notre civilisation occidentale l'éloge d'hommes vivants, puisqu'ils ne marchent et ne respirent que pour éviter la compagnie de ces problèmes qui, au reste, finiront toujours par venir les reprendre au jour de leur agonie. Il me faut donc déjà conclure. Le mouvement est simulacre. Il est une forme de suicide, le suicide des lâches, puisque, laissant des possibilités pour l'avenir, il calme à la fois la peur de l'au-delà et l'ennui de vivre. Mais les calculs sont toujours faux. Le mensonge de l'activité spontanément se dénonce. Oiseau du mystère, oiseau qui chantez au plus silencieux de moi-même, pour vous avoir entendu après le départ des autres hommes, je sais que seule la solitude permet quelque espoir de vérité. Certaines sensations d'âme trop bien enracinées pour que j'en puisse triompher me forcent à confondre vie et vérité. Mais si la mort existe, la mort que les esprits forts ont de tout temps assimilée au néant, elle m'apparaît logique. Certaines formes d'activité me semblant dénuée de raison valable, nul ne s'étonnera donc de me l'avoir, je répète, considérée comme une forme de la mort. L'agitation emprisonne le corps, l'intelligence. Qu'on parle de filet ou de mur, le corps et l'intelligence sont emprisonnés. Voilà le fait. Volière tyrannique sous leurs ailes, dans la captivité de plomb devenue, meurent nos oiseaux de mystère. Mais vienne la nuit, le grillage des simulacres ne reste plus, il ne résiste plus. Vague comme un ciel, et comme un ciel indéniable, une certitude secrète spontanément domine les constructions de nos jours. La moindre secousse est tremblement de terre. Tout s'écroulait, les oiseaux rient dans nos rêves, et par vengeance épanouissent l'éventail de leurs plus belles et leurs plus terribles plumes. Par les rues des villes, mon corps, qui se croyait éveillé, fut somnambule. Dans sa maison endormie, la paix, mes yeux, ma poitrine, mes bras, mes jambes, mon sexe, ou dans la maison endormie, mon esprit retrouve sa sérénité. La vie, la mort, mon esprit ne permet à mon corps de continuer à vivre que par certains masochismes bien illogiques. Au réveil, je me souviens mal. Et tout de même, je ne puis oublier que tel rêve avait le goût de la vie et tel autre le goût de la mort. Aussi précisément que le plat avare avait le goût du sucre et tel autre le goût du sel. C'est pourquoi je me demande à quoi bon protéger de mort mes jours. La recherche des causes finales, comme une vierge consacrée à Dieu, est stérile, écrivait Bacon. Or, il faut beaucoup de frivolité pour préférer à cette vierge stérile ses mœurs sœurs fécondes. La recherche des causes qui ne sont pas finales vaut juste un divertissement. Faute de mieux, à l'égal des autres divertissements, voyage, dancing, essai sexuel, elle ne peut qu'aider à tuer le temps. Tuer le temps, mais si je commence à vouloir tuer le temps, l'ennui devenant trois fortes mesures que j'en désire triompher, et je me trouve contraint à de perpétuelles surenchères. Pour qui se refuse au terrible secours des problèmes essentiels, bien vite, il n'y a d'autre possibilité que le geste ultime, le suicide. Ainsi, qui veut prendre des chemins frivoles et se soustraire à toute angoisse, n'en est pas moins obligé d'envisager l'idée de mort. Une telle nécessité, forçant à la douleur les plus médiocres, prête toujours une beauté tragique. Au fait des hommes. Mais, dira-t-on, certains se couchent sans avoir agi, sans avoir bu, sans avoir dansé, qui ne font même pas l'amour avant de s'endormir. Mais supposons un de ceux-là en paix avec lui-même. Il pense que sa journée fut bonne, car rien ne s'y trouva de désiré ou accompli qui pût choquer des soucis moraux intimes, non plus que des conventions. Alors notre homme en paix se laisse glisser dans ses draps, se réjouit du sommeil à venir, se souhaite une bonne nuit. Glousse d'aise, s'écoute glousser d'aise et s'endort. Et belle catastrophe! Voilà que premier rêve le prend, le plonge dans la rue, l'empêche de croire à l'oubli, au sommeil, à la mort. Il s'en dit que s'il a tué le temps, dévoré l'espace, c'est qu'il voulait se tuer avec le temps. Se dévorer avec l'espace. Une volonté d'anéantissement était la naissance de tous ses actes. Il désirait prendre une notion des choses pour perdre celle qu'il allait perdre de lui-même. Il pensait que chaque réussite devait être une victoire contre soi, bien plus qu'une victoire contre les autres. Il a mesuré le temps, l'espace, pour que ne vienne plus le temps hanter les notions de Dieu, d'absolu, de vie et de mort. Mais alors, du temps et de l'espace, il reste lui. Et c'est que sa vie, sa mort, ne saurait être confondue avec la vie, la mort, des kilos de viande qui le désignent au sens des autres. Le sommeil de son corps n'est pas son sommeil. Lui-même, il le pense, peut se mesurer. Alors, à quoi bon les bandes kilométriques, les montres? Il a fait comme s'il savait où allait le chemin, combien valait l'heure. Il a marché, il a compté. En fait, il a continué d'ignorer la route et le nombre. Économie, lâcheté, impuissance. Vaines sont les consolations offertes à sa curiosité, à l'inquiétude de son âme. Consolation qu'il baptisait pompeusement « vérité relative ». La vie est-elle constituée de l'ensemble des phénomènes bien connus? Notre homme aime-t-il la vie? Si oui, ayant mis dans cette vie toutes ses complaisances, son amour de la vie, s'il use de quelque logique, va le surprendre à se donner la mort. Car en vérité, si tant de moines vécurent vieux, aimant et désirant la mort, les jouisseurs des villes intelligents se tuent jeunes, aimant et désirant la vie. N'est-ce pas, Pétron? En effet, l'amour qui se veut justifié ou se trouve dans l'obligation de se vouloir justifié critiquera ce dont justement il est né. Et c'est de cette critique que sort l'activité dont l'ensemble est égal à la somme de ce que nous appelons suicide provisoire. Mais puis-je imaginer qu'à la suite de ces suicides provisoires, un geste définitif me permettra d'achever à jamais une vie que j'aime, lorsque je le crois précaire et que j'exècre dès qu'elle me semble la simple protection terrestre d'un moment de marche éternelle. L'intelligence pousse au suicide. Mais j'ai parlé de certaines sensations d'âme. Cette certaine sensation d'âme qui n'est ni la peur ni la joie me force à poursuivre ce que j'ai entrepris. Au reste, la hantise du suicide n'est-elle pas le meilleur remède contre le suicide? 1925.